La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Comment les chiens et les chats sont-ils devenus les meilleurs amis de l'homme? De quels animaux sauvages descendent-ils? Où, quand et comment s'est effectué le rapprochement avec notre espèce? Et pourquoi Homo sapiens s'est-il soudain autorisé à s'approprier ces animaux? Les scientifiques tentent de reconstituer les scénarios possibles en s'appuyant sur des fouilles archéologiques ou des analyses génétiques. Où en sont leurs investigations? Aujourd'hui, en compagnie de l'archéozoologue Jean-Denis Vigne, nous allons tenter de remonter le fil de l'histoire de la domestication du chien et du chat. Pour participer à la discussion et nous adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Daniel.
À la une de la science aujourd'hui, et si nous n'avions pas une, mais plusieurs horloges biologiques?
À chaque organe, son propre rythme. C'est en effet la conclusion d'un travail colossal mené par une équipe de l'INSERM. Un travail qui pourrait avoir des répercussions sur le plan thérapeutique. On en discute avec le biologiste Howard Cooper.
Et en fin d'émission, comme tous les jeudis, nous retrouverons le docteur Dominique Dupagne pour sa chronique Santé polémique. Il s'intéressera aujourd'hui à notre tension artérielle. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré, réalisée par Fanny Boyon et préparée par Sophie Vaux.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Jean-Denis Vigne.
Bonjour.
Vous êtes archéozoologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous vous intéressez de façon générale à l'histoire de la domestication des animaux par l'homme. Est-ce que vous diriez que dans cette histoire, celle de la domestication du chien occupe une place à part?
Oui, sans doute. Sans doute. C'est d'abord le plus ancien animal domestique. Et en plus, c'est l'animal domestique des chasseurs. Alors que les moutons, les vaches, les cochons sont évidemment les animaux domestiques des éleveurs.
Et pour les chats, c'est une toute autre histoire.
Ah, c'est encore une autre histoire, oui.
Ouais,
c'est
plus récente.
Un peu plus récente que celle du chien, mais c'est une très vieille histoire quand même. Hein. Ouais. 110 siècles, 11 000 ans.
On a même retrouvé des momies de chats dans les pyramides.
Oui, ça c'est beaucoup plus récent, mais c'est tout aussi intéressant.
Ouais, et c'est tellement intéressant qu'on va en parler dans cette tête au carré. On s'intéresse à l'histoire de la domestication du chien et du chat. Et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de la tête au carré. À la une de la science, le rythme biologique de nos organes.
L'Assemblée Nobel à l'Institut Karolinska a décidé aujourd'hui d'attribuer le prix Nobel 2017 de physiologie et de médecine à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach et Michael W. Young pour leur découverte sur les mécanismes moléculaires qui contrôlent le rythme circadien.
C'était en octobre dernier à Stockholm, des chercheurs américains étaient récompensés pour leurs travaux sur le rythme circadien, l'horloge biologique humaine réglée sur un cycle de 24 heures. Mais en plus de cette horloge centrale, chaque région du corps, chaque organe dispose aussi de sa propre horloge. C'est ce qui ressort d'une étude beaucoup plus récente, elle, de l'équipe de l'INSERM. Les résultats sont publiés dans la revue Science et on en parle, Agnès, avec notre invité.
Howard Cooper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM, vous dirigez une équipe sur la chronobiologie et les désordres affectifs. Et dans cette étude donc, vous montrez que chaque organe, voire chaque tissu du cerveau, ont leur propre horloge biologique, en tout cas chez un primate. Est-ce que c'est une nouvelle étape dans la connaissance du rythme circadien, des rythmes circadiens même pourrait-on dire?
Oui, c'est nouveau dans le sens qu'on a pu montrer que pratiquement chaque tissu, chaque organe, même chaque cellule possède son propre horloge et toutes ces différentes cellules s'expriment sur un rythme de 24 heures. Mais ils ne s'expriment pas à n'importe quel moment et c'est exprimé à des moments très précis de la journée selon l'organe et selon la fonction.
D'accord, donc ça vous avez pu voir donc que par exemple il y avait des pics d'activité, c'est ça, pour certains gènes, dans certaines parties du corps?
Il y a des pics d'activité très très précis, c'est pas à n'importe quel moment. D'abord, on a pu étudier les 25 000 gènes du primate non humain, c'est exactement le même nombre que possède l'homme. Et on a pu montrer qu'une grande majorité de ces gènes, à peu près 80%, sont exprimées selon un rythme très très spécifique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que chaque organe exprime un rythme à un moment précis de la journée. La plupart de ces gènes sont exprimés pendant le jour, en début de journée et en fin d'après-midi, parce que nous sommes des animaux diurnes, contrairement aux animaux nocturnes, où il y a, comme la souris, où ces rythmes sont exprimés principalement au cours de la nuit ou de façon un peu aléatoire par rapport à un pattern d'expression qui est très précis chez le primate.
Donc là, le rush, donc c'est fin de matinée et fin de journée, c'est ça ?
Début de matinée et puis fin d'après-midi. Par exemple, il y a plus de 11 000 gènes qui sont exprimés en fin d'après-midi, comparé à moins de 700 qui sont exprimés en début de nuit, au moment qu'on s'endort, par exemple.
Mais pour bien comprendre, ce sont des gènes importants. Vous dites par exemple qu'il y en a qui servent à l'entretien de la cellule, du métabolisme, qui servent aussi à la réparation. Donc c'est important de savoir à quel moment ces gènes-là sont plus actifs, entre guillemets.
Alors, ces gènes qui sont un peu ubiquitaires, exprimés partout dans tous les organes, il y a à peu près 11 000, 96% sont rythmiques. Pas dans les mêmes tissus, mais il y a au moins 96% qui sont rythmés au moins dans un tissu. Mais c'est facile à comprendre parce que il faut que ces processus cellulaires de réparation, de métabolisme soient entretenus de façon précise, optimale pour chaque cellule. Dans les organes, les nombres de gènes qui sont rythmiques diffèrent. Certaines régions, comme le cortex préfrontal, le gland thyroïde ou l'estomac, il y a plus de 3000 gènes qui sont rythmés. Dans d'autres organes, il peut y avoir moins de 200 gènes qui sont rythmiques, par exemple dans la moelle osseuse, le tissu adipeux ou certaines régions du cerveau.
Et c'est la première fois qu'une étude explorant l'horloge biologique est menée chez une espèce aussi proche de l'être humain ?
C'est la première fois. Ces études ont déjà été réalisées chez le drosophile et aussi chez la souris, mais c'est la première fois que c'est réalisé chez nos plus proches cousins, le primate non humain. Et ce que ça montre en partie, c'est que chaque tissu et chaque organe exprime possède sa propre signature en termes d'expression et d'identité génique. Quel gène, et à quel moment et combien de gènes sont exprimés. Et encore une fois, on était assez surpris de voir que c'était très différent de ce qui se passe chez la souris. Par exemple, dans le cœur ou dans le foie, c'est pas les mêmes moments que les gènes sont exprimés, et c'est pas les mêmes gènes et c'est pas le même nombre de gènes. Donc très différent.
Ce qui paraît étonnant, c'est qu'effectivement le parallèle entre un rongeur, même s'il s'agit d'un mammifère, mais qui a un rythme de vie très différent de l'humain, puisque il ne dort pas en une seule fois. Souvent, ce sont des moments de plus espacés. Souvent, ce sont des animaux aussi qui vivent la nuit et pas le jour. Donc, ça n'est pas si étonnant de se dire que ce n'était pas le meilleur modèle pour comprendre ce qui se passe chez nous, les êtres humains.
Ça dépend de la question qu'on pose. On peut faire chaque modèle d'animal a son avantage et ses inconvénients. Et on peut faire certaines manipulations chez la souris pour répondre ou connaître certaines fonctions de base qui sont impossibles à faire chez l'homme ou chez le primate.
Alors, ça nous permet de comprendre comment ça marche, mais Agnès, ça peut aussi aider pour des nouvelles thérapies, peut-être aussi.
Oui, par exemple, Howard Cooper, on a vu que, enfin, des expériences ont déjà montré que, par exemple, la cicatrisation est plus ou moins longue selon qu'on s'est blessé durant le jour ou la nuit, que des patients opérés du cœur connaissent moins de complications s'ils sont opérés l'après-midi plutôt que le matin. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qui relèvent justement de ces phénomènes que vous expliquez, de l'horloge biologique propre à chaque région du corps.
Oui, tout à fait. On sait que, par exemple, certains traitements médicaux sont plus efficaces s'ils sont administrés à certains moments de la journée. Ceci est vrai pour les cancers. C'est vrai dans une étude qui a été publiée récemment sur les opérations cardiaques que vous avez citées par une équipe à Lille. Mais une chose qui nous a surpris, c'est que aux États-Unis, l'administration de Food and Drug Administration a défini les gènes qui sont les cibles pour certains médicaments. Et on a trouvé que 82% de ces gènes cycle. Donc, ce qui veut dire que semble normal de tenir compte de quand est-ce que les gènes et les, sont exprimés, les protéines transcrits, pour savoir à quel moment tel ou tel médicament doit être utilisé. Autrement... Or, actuellement, il y a assez peu d'études qui tiennent compte d'une notion de temps.
Autrement dit, aujourd'hui, peut-être que l'on prend des médicaments qui, si on les prenait une heure avant ou une heure après, auraient beaucoup plus d'effet sur l'organe qu'ils sont censés toucher.
Tout à fait. Par exemple, notre étude aux États-Unis a montré que les 10 médicaments les plus utilisés, ça concerne par exemple cholestérol, l'asthme, la dépression, ne sont efficaces que dans 1/4, voire 1/50 patients. Ouais. Et une des raisons pourrait être que peut-être qu'ils ne sont pas administrés au bon moment.
Mais la chronothérapie, justement, qui consiste à administrer un médicament au meilleur moment, ça existe déjà, Ward Cooper?
Tout à fait, et heureusement, il y a quelques études qui vraiment ont marqué ce domaine. Tout d'abord, l'équipe de Francis Lévy à Paris, qui étudie l'administration de certains médicaments pour traiter des cancers, a montré que si on affine l'heure de l'administration de certains médicaments, c'est beaucoup plus efficace que de donner un temps aléatoire, disons. Ça optimise l'efficacité, ça diminue les effets négatifs.
D'accord.
Et encore, il y a une étude assez vaste qui a été faite en Australie pour d'autres médicaments qui traitent cholestérol, l'hypertension ou des drogues anti-inflammatoires, qui parvient à la même conclusion. L'heure à laquelle est donné tel médicament est cruciale pour définir l'efficacité.
Une piste à suivre donc. Merci Howard Cooper et Agnès. À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'alcool multiplie par 3 les risques de démence. C'est ce qui ressort des travaux d'une équipe de l'INSERM. Ils ont étudié les données des hospitalisations en France entre 2008 et 2013. Pour 57% des cas de démence précoce et 8% de celles survenues après 65 ans, ils ont identifié une consommation excessive d'alcool, soit au moins 6 verres par jour pour les hommes et 4 verres pour les femmes. Dans leur étude parue dans The Lancet Public Health, ils recommandent de renforcer la prévention contre l'abus d'alcool. C'est une première en astronomie. Les toutes premières phases d'une supernova, autrement dit de l'explosion d'une étoile massive, ont été observées. On doit cette grande première à un astronome amateur, un Argentin, alors qu'il testait un télescope nouveau de 40 cm de diamètre. 40 cm seulement, il a vu un objet apparaître dans une galaxie, la galaxie de constellation du Sculpteur, à 65 millions d'années-lumière de nous. Un objet dont la luminosité s'est multipliée par 3 en une demi-heure. Les observations du chanceux amateur astronomes se sont avérés compatibles avec ce que prévoyaient les simulations informatiques des scientifiques. L'étude est publiée dans la revue Nature. Que se passait-il vraiment il y a 2200 ans au Plutonium, un site romain dédié au roi des enfers Pluton? Des animaux y étaient sacrifiés par un procédé qu'on disait miraculeux. À peine pénétraient-ils dans l'enceinte qu'ils mouraient sans avoir été touchés, tandis que les hommes qui les accompagnaient, eux, ressortaient indemnes. L'explication vient d'être apportée par la revue Archaeological and Anthropological Science. Ces temples étaient dressés sur des failles dégageant du dioxyde de carbone qui formait le matin un brouillard flottant au-dessus du sol. Les animaux l'inhalaient, mais pas les hommes, trop grands pour que le gaz atteigne leurs narines. Dans un instant, on s'intéresse à l'histoire de la domestication du chien et du chat dans la tête au carré. Et notre invité attend vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Une ville brûlée par le soleil. Au-dessus d'elle le ciel.
C'était Bon Voyage Organisation qui chantait Goma.
La tête au carré sur France Inter.
Jamais encore je n'avais été aussi seul. Mais je ne puis, en toute honnêteté, prétendre être malheureux. Il y a un loup qui s'intéresse beaucoup à mes faits et gestes. Il ne semble pas animé d'intentions agressives, et en dehors de Cisco, il est ma seule compagnie. Depuis 2 jours, il se montre chaque après-midi. Il a des chaussettes toutes blanches aux pattes avant. S'il revient me voir demain, je le baptiserai Chaussette. Bonjour, Chaussette. Tiens, prends, Chaussette. Chaussette est devenu mon ami. Il refuse encore de manger dans ma main, mais il a de bons yeux et l'ouïe fine, et il m'avertit dès qu'il se passe quelque chose d'anormal.
Extrait de Danse avec les loups, film qui met en scène le rapprochement entre un homme seul et un loup. Invité de la tête au carré, Jean-Denis Vigne, chercheur au CNRS, archéozoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ses travaux portent sur l'histoire de l'élevage et de la domestication des animaux. Et cet après-midi, nous faisons le point avec lui sur ce que savent les scientifiques, précisément de la domestication du chien et puis du chat. Alors commençons par celui que l'on considère comme le meilleur ami de l'homme. C'est en tout cas le plus ancien à avoir été domestiqué. On est certain aujourd'hui, Jean-Denis Vigne, de connaître l'ancêtre du chien ?
Oui, on est certain. Si on pose la question en termes d'espèce, quelle est l'espèce ancêtre du chien ? Oui, c'est le loup. Toutes les hypothèses qui ont été évoquées précédemment, y compris une souche de chiens qui serait aujourd'hui éteinte, de chiens sauvages, toutes ces hypothèses sont tombées. L'archéologie les a fait tomber, l'ostéo-archéologie, hein, l'étude des ossements qu'on trouve dans les sites archéologiques, ont fait tomber ces hypothèses, je dirais, dans les années 80. Ouais. Et puis la génétique est venue confirmer très largement que le loup est l'ancêtre du chien.
D'accord. Plus de doute, certains pensaient le chacal, d'autres hypothèses avaient été formulées.
Alors, il peut y avoir ce que nous on appelle des introgressions, hein, c'est-à-dire des croisements entre espèces proches qui font que certaines composantes du génome peuvent s'insérer dans le... Alors évidemment, si on commence à parler de ça, on rentre dans le domaine de l'hybridation entre les espèces, qui est un champ extraordinaire. Hein. On sait maintenant que notre génome est composé d'un tas de génomes que nous avons acquis du temps où nous étions poissons, et puis ensuite reptiles, mammaliens, etc., etc. Bon, alors évidemment, c'est des choses qui arrivent, mais pour rester simple, le loup, oui, est l'ancêtre du chien. J'ai dit, bon... Si on parle d'espèces, si on parle de population, le loup, c'est une espèce extrêmement diverse avec des populations de tout genre qui s'étendent dans tout l'hémisphère nord, en particulier tout l'Eurasie. Évidemment, il y a des populations qui ont contribué aux chiens et d'autres pas.
Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui chien et loup comme deux espèces distinctes?
Oh, alors, là, on est encore dans des problèmes de biologie. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Si vous voulez, du point de vue de la nomenclature internationale, le loup et le chien sont reconnus comme étant deux espèces distinctes. Canis lupus pour le loup et Canis familiaris pour le chien.
Mais ça, ce sont nos codes à nous, nos armoires de rangement.
Exactement.
Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain, dans la nature?
Eh bien, sur le terrain, le loup et le chien sont totalement interféconds. Du moins potentiellement, dû-je dire, plutôt que totalement, parce qu'évidemment, tout le monde imagine aisément le chihuahua et le grand loup, le mâle et la femelle, le mâle de l'un, la femelle de l'autre. Bon, on sait bien que il y a quand même des barrières, je dirais, morphologiques qui ont été introduites par l'évolution du chien.
Hein, alors,
bien
ce sûr. Sont des barrières morphologiques, pour le dire simplement, une insémination artificielle, un Yorkshire avec un loup, c'est possible?
Ah bah totalement.
Et puis ça donne quoi ?
Eh ben ça donne un canidé du genre canis qui va être un peu lupus et un peu familiaris.
Oui, ça ressemble à quoi en termes plus français et moins latins ?
Ah, ça ressemble à quelque chose qu'on peut difficilement prévoir de manière très 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 précise parce que évidemment la recombinaison des gènes va produire des expressions morphologiques et comportementales variées.
Et toujours dans ce registre, si on prend un bébé loup et qu'on l'élève rigoureusement comme un chien, on obtient un chien ou on obtient un loup ?
Ah, on n'obtient pas un chien. On n'obtient pas un chien parce que, justement, c'est ligné. Si on a quand même décidé de créer cette espèce Canis familiaris, c'est qu'il y a quand même des différences importantes, même si la reproduction est toujours possible, des différences de comportement en particulier. La différence la plus évidente pour tout un chacun et à laquelle on pense pas toujours, c'est la voix. L'aboiement, c'est le propre du chien. Le loup n'aboie pas. Il hurle, il a un certain nombre de vocalisations, mais qui sont pas des aboiements. Et là où c'est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement cet aboiement, nous le comprenons d'une certaine manière en tant qu'homme. Nous l'interprétons. Donc c'est un langage que le chien a développé dans sa vie en familiarité avec l'homme.
L'évolution a mis en place en quelque sorte un langage entre nous et ces animaux, a rendu possible la communication,
tout à fait. C'est l'évolution, mais c'est, alors on dit c'est extraordinaire, c'est la domestication, mais non, c'est quelque chose maintenant, on découvre peu à peu que beaucoup d'espèces différentes communiquent entre elles par des signaux sonores, odorants, etc. et par des langages qu'ils développent spécifiquement pour communiquer non seulement avec leurs semblables, mais aussi avec d'autres espèces avec lesquels ils interagissent.
Alors, quand a eu lieu la domestication du chien ? Est-ce que la réponse à cette question fait consensus au sein de la communauté scientifique ?
Alors, il y a un consensus autour d'une date comprise entre 14 000 ans et 11 000 ans. Je dirais que pratiquement toute la communauté s'accorde qu'à cette époque, il existait des chiens domestiques dans plusieurs régions d'Eurasie. Il y a un débat sur l'ancienneté, sur le principe, nous scientifiques, vous savez, on est toujours ouverts à tout, mais il faut nous le démontrer. Et sur le principe que Homo sapiens ait pu domestiquer des loups antérieurement à cette date, même très antérieurement à cette date, pourquoi pas ? Sur le principe même que Néandertal ait pu domestiquer ou avoir des relations particulières avec les loups, pourquoi pas ? C'est même extrêmement probable.
Mais on n'en a pas la preuve.
Quelle preuve avons-nous ? Est-ce qu'on doit parler de domestication ? En revanche, il y a eu quand même, depuis une dizaine d'années, des indices qui ont été publiés par certains de nos collègues, en Belgique et en Russie, qui suggèrent la possibilité de domestication beaucoup plus ancienne, aux alentours de 30, 40 000. Mais ça ne fait pas consensus. Et moi, personnellement, je suis attentif à ces découvertes, mais pas convaincu.
La domestication du chien arrive bien avant, ça on en est sûr, ou vous allez me dire le contraire peut-être, bien avant celle de tous les autres animaux. Combien de temps avant l'élevage par exemple ?
Alors avant les plus anciens élevages, si on part d'une date aux alentours, allez, 12 000 pour être prudent, l'élevage c'est 8 000 les plus anciens élevages au Proche-Orient, donc 4 000 ans avant. On est dans des mondes complètement différents, on est dans les temps, la fin des temps glaciaires, dans des groupes de chasseurs qui sont plus ou moins mobiles, ils ne sont pas forcément des pauvres hères, ils sont plus ou moins mobiles, mais ce sont des chasseurs, cueilleurs. Alors que la domestication, la domestication, elle intervient chez les chasseurs-cueilleurs aussi, mais souvent déjà agriculteurs. Et elle participe, la domestication des animaux d'embouche, les bœufs, les moutons, etc., elle participe à un changement économique majeur. Alors que la domestication du chien, elle va pas avoir un impact visible pour nous, archéologues, sur les trajectoires de ces populations de chasseurs.
Et puis alors pour les chats, ça s'est passé, qu'est-ce qu'on sait ? Ça s'est passé quand ? Plus récemment, vous nous le disiez, et un peu différemment.
Ça s'est passé différemment. On a longtemps cru que les chats avaient été domestiqués en Égypte, on voit tous pourquoi, on y reviendra probablement, aux alentours de 1500, 2000 avant Jésus-Christ. Et puis au début des années 2000, l'équipe à laquelle j'appartiens et qui était dirigée par Jean Guilaine à l'époque du Collège de France a découvert à Chypre une sépulture avec un chat qui en disait long sur des relations homme-chat. Et cette sépulture, elle était datée de 7005 avant le Christ. Et puis on a continué de faire des découvertes et on a montré récemment que des chats avaient été introduits sur cette île de Chypre volontairement par l'homme aux alentours de 8800, 9000 avant Jésus-Christ, au tout début de l'agriculture. Ça fait 11 000 ans.
Volontairement, pour quelle raison ?
Alors, volontairement, c'est vrai que ça je peux pas le démontrer de manière absolue, mais Si vous avez déjà essayé de mettre votre chat dans la baignoire, vous pouvez vous imaginer qu'une traversée de 70 km en pleine mer ne doit pas attirer nos petits amis félins plus que ça. Et on imagine assez mal, à moins d'un énorme tsunami qui attrape les chats sur le continent et qui les balance à 70 km de là. Non, je pense que raisonnablement, l'apparition du chat sur une île dont on sait bien qu'elle ne posséder aucun félin, est un indice de transport de chats sauvages encore, par l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il y a des chats domestiques.
Hein. Ça peut être des chats passagers clandestins qui se sont invités à bord des bateaux.
Oui, alors, oui, là, c'est pas. Mais alors, les chats sauvages, c'est pas nos jolis petits minets, c'est des très grosses bêtes qui sont très farouches, très agressives, et sur un bateau d'une taille quand même qu'on n'imagine pas être celle d'un paquebot, passe pas inaperçu quand même. Alors, donc c'est possible, mais ça n'est pas vraisemblable.
Vous parliez de l'Égypte ancienne, avec les chats qui avaient certainement un statut particulier. En témoignent des découvertes archéologiques faites en Égypte. Extrait du journal de la nuit d'Antenne 2 en 1982.
La pyramide à degré de Saqqara, avec tout ce qu'elle représente en elle-même, n'est en fait, comme toutes les autres pyramides, que la partie apparente de ce qu'on pourrait appeler un iceberg de pierre dans l'océan de sable du désert. Et l'on vient justement d'y découvrir une des curiosités de l'archéologie égyptienne, les chats momifiés. On n'a pas encore trouvé en fait l'entrée de cette nécropole dans laquelle il est très difficile de circuler. Différentes galeries se perdent dans tous les sens, et des centaines, peut-être des milliers de chats momifiés sont entassés là dans leurs sacs de toile.
Il faut vraiment que... On oublie le genre de rapport que nous avons avec les animaux. Il y a aussi à Saqqara un cimetière de chiens, mais ce n'était pas les petits compagnons à quatre pattes. C'était beaucoup plus profond que ça. C'était en fait des animaux qui participaient de toute une conception religieuse et on les enterrait plutôt près de leur déesse, la déesse Bastet, qui avait un temple juste là-haut.
Finalement, les chats domestiques d'aujourd'hui, ceux que nos grands-mères aiment bien, ceux que les dames et les concierges du quartier aiment bien caresser aussi, eh bien peut-être au fond ne sont-ils que des dieux déchus.
Des dieux déchus, on ne sait pas. En tout cas, clairement, ces chats, ils avaient, au temps de l'Égypte ancienne, un statut particulier. On ne s'en sert pas uniquement pour chasser des souris. Des momies par centaines, par milliers, nous dit ce reportage de 1982.
Tout à fait. Alors, déjà, bien avant, presque avant l'Égypte dynastique, dans ce qu'on appellerait néolithique, ailleurs, aux alentours de 4000-4500 avant le Christ, on trouve des grands dépôts d'animaux princiers liés à des actions rituelles, etc. Et dans ces dépôts, on trouve les plus anciennes traces de manipulation des chats. On a l'équipe de Wim van den Neer au musée d'histoire naturelle de Bruxelles a trouvé les preuves de ces premiers actes très anciens. Alors ce dont vous me parlez là, Saqqara, c'est beaucoup plus tardif, c'est l'Égypte ptolémaïque, où s'est développé, je dirais, un commerce autour du culte de Bastet. Et des gens élèvent des chats pour les tuer, ces pauvres bêtes, parfois les découper en deux pour faire deux momies à la place d'une parce que c'est plus rentable, et vendre ces momies aux pèlerins qui vont les offrir à Bastet. Voilà pourquoi on en a des milliers et des milliers entassés dans ces sépultures.
Nous allons essayer de détailler les différents scénarios plausibles qui ont abouti à la domestication des chiens et à celle des chats dans la suite de cette émission. Et puis vous répondrez, Jean-Denis Vigne, aux questions des auditeurs qui arrivent pour vous sur franceinter.fr et sur la page Facebook de La Tête au Carré.
Level with you, what you know about the rebel in ya? caught the fish, you're gonna flip it on ya. Raise the bar and they move it on ya. Take you off, the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word been deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather use terrible. If we organize, they can get it. The siege since dawn. That's how they see it, so they ring the alarm before we even realize that they mean us harm. Super rich know exactly what's wrong. They got the goodies and they bought them for us on. And we the world full of workers, 8 billion strong. That's how we coming, so come on. For great matter, always get it all you suckers scatter when I come hard like mixing in the battle. Come on.
C'était Arat Kilo, KO Embedded sur France Inter.
La tête au carré.
Un loup n'avait que les os et la peau. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Presque rien, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Chemin faisant, il vit le col du chien, pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien, quoi rien? Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours. Mais qu'importe? Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même, à ce prix, un trésor.
Le loup et le chien, célèbre fable de La Fontaine, lu par Jean Pia. On s'intéresse à la domestication des chiens et à celle des chats aujourd'hui en compagnie de Jean-Denis Vigne, archéozoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, chercheur au CNRS. Je vous voyais sourire en entendant Jean de La Fontaine. C'est vrai que le régime alimentaire du loup et du chien qui descend, hein, du loup, a changé avec cette domestication.
Oui, oui. Alors on s'est longtemps demandé d'ailleurs à partir de quand les chiens ont été capables de digérer les nouilles. Enfin, pour parler en termes crus et, ouais, et directs. Hein.
D'adopter le régime avec gluten en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, merci. C'est plus scientifique de le dire comme ça. Enfin, avec amidon, pas avec gluten. Avec en l'occurrence, c'est amidon. Et donc, assez récemment, maintenant qu'on a accès à des données paléogénétiques et qu'on arrive à travailler sur les gènes codant la capacité à digérer l'amidon, notre équipe au Muséum CNRS, en collaboration avec l'ENS de Lyon et Morgane Olivier, s'est attaquée à la recherche du gène qui permet la production d'amylase, cette enzyme qui permet de digérer l'amidon. Alors chez le loup, le gène existe, mais il produit un très petit nombre, il y a un très petit nombre de copies du gène et il produit un très petit nombre, de très petite quantité d'amylase. Chez les chiens actuels, il y a jusqu'à 70-80 copies du gène. Donc, ouais. À quel moment ça démarre? Eh bien, on a trouvé que dès avant le début du néolithique, donc avant même qu'on pratique l'agriculture, qu'on l'homme fabrique des pains, etc., eh bien, le chien avait commencé déjà à muté, entre guillemets, c'est-à-dire que le gène en question était au nombre de 4, 5, 10, 15 répliques déjà chez des chiens du pré-néolithique ou tout début du néolithique.
Autrement dit, en côtoyant les hommes, ils se transforment.
Tout à fait.
Génétiquement, physiologiquement, ils se transforment aussi. Son comportement change. On va se retrouver, quand on y pense, un chien de berger, c'est fait pour garder un troupeau qui pour un loup est une proie. Donc on change complètement son comportement vis-à-vis des autres animaux.
Tout à fait. On change de comportement ou d'une certaine manière, on transforme les aptitudes naturelles d'un loup celles d'un chien, c'est-à-dire que c'est d'une certaine manière un recadrage ou une réutilisation, un remploi des aptitudes naturelles. Bon, là, on parlait tout à l'heure de la vocalisation, on ne va pas y revenir, mais il y a vocalisation et on l'oriente tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre pour communiquer de manière différente hein, avec ses compagnons ou avec une autre espèce. On pourrait parler aussi de tout un tas de postures du chien que nous interprétons, même si c'est peut-être de moins en moins vrai en ville hein, ou les gens qui n'ont pas d'animaux, mais les ruraux qui ont des chiens qui vivent avec eux et qui font la même chose d'ailleurs avec les chevaux ou avec les ânes, etc., interprètent ces attitudes. Disons, nous avons appris en tant qu'hommes aussi à comprendre les chiens et à communiquer avec eux de manière presque par le regard parfois.
Ouais. Alors, Jean-Denis Vigne, là, on sort peut-être un peu de l'exercice purement scientifique, mais essayons d'imaginer ce que vous faites hein, en tant que scientifique sans pouvoir affirmer, puisqu'on n'y était pas, comment ça s'est passé? Comment cet animal qui était sauvage, qui chassait en meute, qui était les loups, se sont rapprochés des campements humains et sont devenus leurs animaux domestiques?
Alors, vous avez raison, on ne peut pas le savoir, mais la science permet de définir un domaine du possible.
Ouais.
Et c'est surtout les sciences comportementales qui le permettent. Bien sûr, l'archéologie, le contexte, etc. aident aussi à ça. Alors, je dirais, il y a plusieurs scénarios. Je pense que tous ces scénarios ont pu être mis en œuvre et que c'est pas forcément le même scénario qui a amené la domestication d'Europe occidentale que celui qui a amené la domestication en Chine.
Oui, parce que la domestication a eu lieu à différents endroits.
Maintenant, on sait qu'il y a au moins trois endroits, mais peut-être plus.
Et à chaque fois, ce sont peut-être des scénarios différents qui
exactement,
se sont déroulés.
Exactement, c'est ça que je voulais dire. La première chose qu'il faut dire, c'est que le loup est homo, je dirais, c'est même pas notre espèce, notre genre, partage les mêmes territoires depuis très 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 longtemps, depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Ils partagent les mêmes territoires et ils entrent en compétition avec les mêmes, pour les mêmes proies. Ce sont des chasseurs de taille moyenne qui s'attaquent à des proies de taille moyenne, qui chassent en groupe, qui ont une organisation sociale importante, qui ont un langage interspécifique important et qui en outre ont des cultures, développent des cultures. Hein, on le sait maintenant depuis pas mal de temps, les loups, comme beaucoup d'autres animaux, n'ont pas les mêmes codes, les mêmes comportements dans une meute d'Espagne, dans une meute d'Europe centrale, etc. Comme pour les hommes. Donc tout ça, c'est des points communs. Alors ces points communs, ils peuvent rapprocher. C'est-à-dire qu'à terme, on peut communiquer finalement, peut-être depuis très très longtemps, sans pour autant domestiquer. Ils peuvent faire entrer en concurrence, ils peuvent faire entrer en synergie un scénario qui consisterait à dire que sans volonté particulière d'organisation, sans idée préconçue, les hommes laissent un peu de viande sur la carcasse, que les loups viennent en profiter après, ou l'inverse
ou
d'ailleurs.
L'inverse, hein.
Ou l'inverse.
C'est peut-être l'homme qui était charognard du loup finalement.
Les deux ont probablement dû exister. Ou alors que la chasse en meute des loups a pu être détournée par quelques petits malins qui ont finalement tiré le gibier là où le loup les conduisait. Et inversement, et pourquoi pas les deux ensemble? Oui, ça c'est un scénario possible, hein, parce qu'il y a proximité. Il y a d'autres scénarios qui sont plus envisageables aussi, c'est des scénarios de proximité, ce qu'on appelle le commensalisme, hein, c'est-à-dire que le loup se rapproche des campements, profite des déchets de l'homme, soit après son départ, soit même quand il est là. Et les interactions, hein, comme on l'a entendu tout à l'heure dans Danse avec les loups, peuvent se produire à ce moment-là. Beaucoup de mes collègues inscrivent la domestication du chien comme un cas particulier de la domestication par commensalisme.
Oui. Alors, y a une question d'Olivier qui concerne les chats, mais je trouve qu'on peut vous la poser aussi bien pour les chats que pour les chiens. Olivier nous demande, et depuis combien de temps les chats ont-ils domestiqué les hommes? Est-ce que c'est pas aussi comme ça qu'on peut voir les choses? C'est-à-dire, ce sont eux qui nous ont apprivoisés, on les sert, on les nourrit, on les protège, c'est eux qui nous ont mis dans la poche.
Oui et non. Je pense que l'erreur, c'est de chercher qui a mis l'autre dans sa poche. La domestication, on l'a longtemps considérée à la suite de Buffon et de tous les grands naturalistes comme une emprise de l'homme, une appropriation de l'animal par l'homme. En réalité, les domestications, qu'elles soient des plantes ou des animaux finalement, ou des micro-organismes, c'est d'abord une interaction entre deux espèces qui prend une forme particulière. Et cette forme particulière, je dirais pas qu'elle est librement consentie par les deux, parce qu'il n'y a pas cette conscience de la part des espèces en question, mais elle se fait tout naturellement. Le rapprochement entre l'homme et le chat, le rapprochement entre l'homme et le loup, c'est une manière assez naturelle, finalement, d'entrer en familiarité l'un avec l'autre.
Allez, on va s'intéresser aux races dans un instant. Quand sont-elles apparues? Et puis, vous répondrez aux autres questions des auditeurs qui sont arrivés sur franceinter.fr.
Fragile tout de même, et ce trafic qui nous emmène. Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes.
C'était Gaëtan Roussel, dis-moi encore que tu m'aimes.
La tête au carré, Daniel Fievé.
On s'intéresse à la domestication du chien avec Jean-Denis Vigne, du chien et du chat. Il est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, chercheur au CNRS. Il y a des cas où des chiens domestiqués redeviennent sauvages. Au moins dans la littérature, Jack London a remarquablement raconté dans son roman L'appel de la forêt, le retour du chien Buck à la vie sauvage.
Buck était apte, voilà tout. Il s'accommodait inconsciemment à son nouveau mode de vie. Ses muscles se firent durs comme du fer et il devint insensible à la douleur ordinaire. Non seulement il apprenait par l'expérience, mais des instincts endormis depuis longtemps se réveillaient en lui. Il se débarrassait de tout l'héritage domestique, se rappelait confusément la jeunesse de sa lignée, le temps où les chiens sauvages couraient en meute à travers la forêt primitive et pourchassaient leurs proies pour les tuer. Aucun effort ne lui était nécessaire pour apprendre à se battre à coups de crocs acérés, vifs comme ceux du loup. C'était ainsi que se battaient ses ancêtres disparus. Il ranimait en lui la vie de jadis. Et quand, dans la nuit froide et immobile, il pointait le nez vers la lune et poussait un long hurlement de loup, c'était ses ancêtres, morts et enterrés, qui hurlaient à travers les siècles et à travers lui.
Un extrait de l'appel de la forêt lu par Guillaume Gallienne que l'on retrouve tous les samedis dans son émission Ça peut pas faire de mal à 18h sur France Inter. Jean-Denis Vigne, alors je vais pas vous faire réagir sur l'exactitude du retour à la vie sauvage du chien Buck, mais des retours à la vie sauvage de chien, ça s'observe.
Bien sûr, bien sûr.
Par exemple.
Oh, par exemple, ce qu'on appelle les chiens jaunes en Afrique, qui se reconstituent en meute et qui sont d'ailleurs très dangereux parce qu'ils ont beaucoup moins peur de l'homme que le loup. Mais il en existe dans nos montagnes certaines attaques de troupeaux. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là non plus, hein, c'est pas le sujet. Mais certaines attaques de troupeaux sont dues à des chiens sauvages, bien sûr.
Le dingo en Australie, c'est un chien. Qui est redevenu sauvage ?
Oui, pour une bonne partie de la population, effectivement. Mais alors le dingo, c'est pas, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, c'est pas un chien qui a été introduit en Australie très très tôt. Hein. Il est arrivé là-bas beaucoup plus tard que l'homme. Il a été introduit il y a 5-6 000 ans, pas plus. Hein.
Alors justement, dans la chronologie des faits, les races de chiens, quand sont-elles apparues ?
Alors déjà, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'une race. Nous, on parle plutôt de morphotype. Dès la fin du néolithique, il y a 4000 ans, 6000 ans, dès la période antique, en Perse, en Égypte, à Rome, il y a des morphotypes de lévrier, des morphotypes de molosses, voilà. Et sur les représentations, on les voit bien, ces animaux disent « Ah, ben ça, c'est un lévrier ». Il se trouve que les gens, à cette époque, avaient commencé, effectivement, à sélectionner ces races et ces morphotypes. Mais ce sont pas les mêmes lignées que celles que nous avons maintenant. Mmh. C'est-à-dire que les molosses n'ont pas de lien génétique avec ceux de Perse, hein, les molosses d'aujourd'hui.
Si je vous suis bien, c'est si on fait le même travail de sélection, on obtient des races qui ressemblent et qu'on le fasse voilà. Il y a 5000 ans ou qu'on le fasse voilà. Aujourd'hui, on obtient...
Et on l'a refait, alors de manière massive et de manière extrêmement ordonnée, ouais. Avec les studbooks de suivi de chacune, de définition et de suivi de chacune des races. On l'a refait, je dirais, ça a commencé à la Renaissance et puis surtout au 18e, 19e et 20e siècle. Ouais. On a donc ces races extrêmement codifiées.
Donc les races de chiens que l'on connaît aujourd'hui, elles n'ont pas plus de 2 siècles,
voilà,
de 3 siècles
exactement.
Maximum.
Ce qui fait que quand on étudie la génétique des chiens de race actuelle, elle raconte une histoire qui a un siècle ou deux, elle ne raconte rien sur l'histoire ancienne.
Il y a une expérience intéressante qui a été faite, je crois, par des chercheurs russes sur des renards, où on a fait le même travail de sélection et on s'est rendu compte que très rapidement, on obtenait, comme vous dites, des morphotypes,
hein,
c'est-à-dire un pelage, une couleur, une forme de queue en tire-bouchon.
Des oreilles tombantes.
Formes de race.
Voilà. Alors c'est pas des formes de race en l'occurrence. Ce sont des modifications morphologiques qui sont liées à la domestication et qui se retrouvent chez pratiquement toutes les espèces d'oiseaux, de poissons, enfin de vertébrés qu'on domestique. Dès qu'on met un animal dans une ambiance où on réduit sa mobilité, on le met à proximité de l'homme, on le met dans un environnement complètement différent, les pressions de sélection qui guident l'évolution sont modifiées, mais elles sont les mêmes pour les poissons, les oiseaux, etc. Et on va avoir les mêmes effets, c'est-à-dire diminution de taille, diminution de capacité crânienne, réduction de tous les organes liés à la cognition et à la mobilité, changement de mode de communication, etc., etc.
Alors, réduction des organes liés à la cognition, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus bêtes, ces animaux qu'on domestique ?
Ils ne sont pas plus bêtes, ils développent d'autres capacités, des capacités de communication avec l'homme. C'est un nouvel environnement, hein, donc ils ne sont pas plus bêtes, mais en nature, ils ont plus de mal, en théorie, parce qu'ils sont... Si la capacité crânienne diminue... C'est parce que les zones sensorielles et motrices du cortex sont moins fournies par rapport aux ancêtres sauvages.
Une question d'un auditeur, Jean-Paul. Le chat domestique descend-il du chat d'Afrique ?
Alors, c'est une question qui nous a taraudé pendant des décennies.
C'est pas le même que le chat sauvage, le chat d'Afrique, celui qu'on appelle le chat sauvage ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour répondre juste à cette question, on le sait maintenant, depuis... l'été dernier, hein, où tout un consortium mené par mon collègue Wim van Neer, que j'ai déjà cité tout à l'heure, a enfin débloqué la situation. Les chats domestiques actuels viennent d'où ? Eh bien, les chats domestiques actuels, ils sont en grande partie issus de lignées domestiquées en Égypte, donc c'est bien le chat d'Afrique, mais il y a aussi une contribution de ces domestications proche-orientales, que nous avons découvert avec Jean Guilaine en 2004 à Chypre, et qui sont liés, c'est pas vraiment un chat africain, c'est un chat du Proche-Orient qui est très proche du chat africain. En fait, le chat sauvage, c'est un grand nombre d'entités différentes. Le chat forestier d'Europe occidentale est probablement l'entité la mieux isolée, et elle n'a pas donné naissance du tout à des formes domestiques. Le chat sauvage du Proche-Orient et celui d'Afrique nord-occidentale ont donné naissance aux lignées domestiques. Mmh. Donc, la réponse est finalement oui. Oui.
Allez, en 30 secondes, qu'est-ce que les chiens et les chats avaient de plus que les autres animaux que l'on aurait pu domestiquer? On évoquait le renard, pour finir dans nos salons, sur notre canapé, pour devenir nos meilleurs amis.
En 30 secondes, ils avaient des choses, c'est des choses très différentes. Hein. Le chien avait cette vie sociale, ce comportement de chasseur, etc., et de carnivore ou omnivore. Le chat avait son amour des souris, et l'homme avait attiré des souris dans ses villages avec le début de l'agriculture. Mais en commun, ils ont ceci, que ce sont des peluches.
C'est ça. Et que, ils avaient aussi pour eux d'être mignons.
Ils avaient aussi pour eux d'être mignons, bien entendu, d'être capables de développer des interactions avec des humains.
Je signale un livre que vous avez écrit, Jean-Denis Vigne, dans lequel vous parlez notamment de la domestication du chien et du chat. Il s'intitule « Les débuts de l'élevage » aux éditions Le Pommier. Un grand merci à vous d'être passé par la tête au carré, Jean-Denis Vigne.
Avec grand plaisir.
Et maintenant, c'est l'heure du docteur.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Daniel.
Les USA créent une polémique en diffusant de nouvelles normes pour la tension artérielle.
Bah oui Daniel, c'est tout récent. Hein. Alors en abaissant à 13,8 le seuil qui définit l'excès de tension artérielle, l'association des cardiologues américains transforme le tiers des adultes en hypertendus devant prendre un traitement quotidien. Le docteur Knock n'est pas loin.
Mais alors, que signifie le 13,8?
Eh bien comme la pompe cardiaque fonctionne par contractions successives, la pression dans les artères entre deux contractions est maintenue par l'élasticité de leur paroi qui est mise en tension comme un ballon, d'où d'ailleurs le terme de tension artérielle. Alors le premier chiffre correspond au maximum de la pression quand le cœur se contracte et le deuxième au minimum entre deux battements. Alors pour des raisons historiques, cette pression est exprimée en centimètres de mercure, 13, ça veut dire une pression sanguine équivalente à celle exercée par une colonne de mercure de 13 cm. Pareil pour le deuxième chiffre, pendant le repos cardiaque, la pression résiduelle, elle serait suffisante pour faire monter du mercure de 8 cm si on mettait un tuyau transparent relié à une grosse artère.
Ah bah c'est beaucoup plus clair comme ça. Si maintenant. Et alors, quelle est la tension normale?
Une tension normale, Daniel, ça n'existe pas. En fait, l'idéal, c'est autour de 10 pour le chiffre le plus élevé et de 6 pour le deuxième. Mais on ne peut pas dire qu'il existe une tension artérielle normale. En fait, on sait que le risque cardiovasculaire et surtout le risque d'accident vasculaire cérébral augmente avec la tension artérielle. Il vaut mieux avoir 10 que 11, 11 que 12, 12 que 13, etc. Mais le risque d'AVC, d'accident vasculaire, s'accélère à partir de 15 et devient majeur à 18. Alors, attention, je précise qu'une poussée de tension isolée, même à 20, n'est pas très inquiétante. Ce qui compte, c'est l'hypertension dans la durée, qui aboutit à durcir les artères, puis à les boucher, et non pas à provoquer une rupture et une hémorragie, qui est une option beaucoup plus rare.
Alors pourquoi la recommandation américaine suscite-t-elle une polémique?
Parce que je vous dis, en fixant à 13,8 le seuil à partir duquel un traitement médicamenteux est nécessaire, on transforme le tiers des adultes en malades, devant prendre un traitement à vie. Ouais. Or, ce qui définit l'hypertension, c'est le seuil à partir duquel un traitement médicamenteux a prouvé qu'il avait plus d'avantages que d'inconvénients pour prévenir les accidents. C'était jusqu'ici le cas pour une tension supérieure ou égale à 14 pour le premier chiffre et 9 pour le deuxième, 14-9. Or, la recommandation américaine de baisser ce seuil à 13-8 ne se fonde pas sur des preuves solides. Ils y vont donc un peu fort quand même. Alors pour les détails, je suggère la lecture de l'excellent article du blog médical Perruche en automne, qui inspire souvent mes chroniques. Tapez Perruche en automne dans Google pour connaître les détails de cette histoire.
Donc pour vous, ces recommandations sont à écarter?
Disons qu'elles sont à relativiser. Il faut garder en tête qu'il ne suffit pas de prendre un médicament pour son hypertension. Il faut vraiment la faire baisser. Et 13 est un meilleur objectif que 14 si on part de 16 ou de 15. Mais en revanche, ceux qui sont à 13 sans traitement en moyenne n'ont pas forcément besoin de médicaments. Alors, l'élément positif de ces recommandations pour moi, c'est surtout le rappel des conditions optimales de la prise de la tension artérielle. Notamment, il faut être assis face à une table et non allongé, être détendu bien sûr, et surtout que ni le médecin ni le patient ne parlent pendant la mesure.
Merci Dominique, et à jeudi prochain, juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel. Merci à Élise Christophe et Guillaume Roux qui étaient à la technique aujourd'hui. Vous écoutez France Inter, il est 15h.